Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Sullivan Bentier a 23 ans lorsqu'il décide d'effectuer seul le grand saut vers l'inconnu. Objectif, faire le tour du monde. Passé l'analyse du cheminement qui mène au départ, il parcourt le monde durant une année en quête de sens, de découverte et d'échange. Dès son retour, il se lance dans l'écriture des chroniques de cette année de vie errante, récit riche de rencontres et de pays lointains, qu'il intitule « Affranchi du temps ». Bah ça va, t'as déjà mangé ?
Pas du tout, j'ai pas encore mangé, non.
Ça commence à avoir faim là un petit peu, non ?
Ouais, ça gargouille un petit peu, mais bon, l'échange avec les gens me permet de tenir un petit peu, et bon, on aura le temps de manger plus tard, finalement.
T'es arrivé quand, là ?
Je suis arrivé ce matin. Moi, je suis originaire de la Loire, je suis un Ligérien, donc très content d'être ici pour ce beau festival. Et par contre, j'habite chez nos voisins lyonnais, donc je suis parti à l'aube pour venir installer mon stand. Et non, vraiment content d'être ici, parce que y a plein de gens bien. Et puis c'est très ciblé, enfin, j'ai fait aussi le salon du tourisme, mais bon, le tourisme de masse, tout le monde n'était pas intéressé par cette expérience de voyage à la route, c'est un petit peu, on va dire, là c'est vrai, un vrai festival de voyageurs, donc les gens, tout de suite, on sait qu'ils vont être intéressés en fait, par cette expérience, ça en tout cas.
C'est ton premier Planète Couleur, ta première édition du festival Planète Couleur ?
Ouais, c'est la première fois que je viens ici, j'ai découvert ce festival il y a assez peu de temps finalement, via le réseau un petit peu des voyageurs, et j'avoue que je suis très content d'être là, parce que ça permet d'échanger avec les gens, avec d'autres voyageurs et puis d'autres acteurs en fait du tourisme en fait, donc c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait et d'échanger, donc notamment avec ma voisine là qui elle a voyagé par voie maritime, ce que je n'ai pas fait, ce que je ne pourrais pas faire d'ailleurs, je pense, enfin j'en sais rien, mais je fais les choses pour l'échange en fait, j'écris pour l'échange que ça procure et je voyage pour l'échange que ça procure aussi, ouais.
Donc qu'est-ce qu'il y a là sur ton stand ? Fais-moi un petit peu un tour d'horizon de ce qu'on retrouve.
Alors sur mon stand, alors j'ai été invité principalement pour faire la promotion en fait du livre que j'ai écrit en retour de mon tour du monde qui s'appelle Affranchi du temps. Et en parallèle, pour décorer un petit peu le stand, j'ai mis en place une petite exposition de photographies prises à Madagascar, puisque je rentre de Madagascar, j'y ai vécu et travaillé pendant 2 années. Donc je voulais un petit peu partager ça, et d'ailleurs il y a une petite communauté malgache de stéphanoise là, qui est venue à ma rencontre et on a pu échanger, et donc c'était super sympa. Mais principalement c'est pour parler de cette expérience du tour du monde que j'ai fait en 2006-2007 et du livre qui est ressorti un petit peu de cette expérience que j'ai écrit lors de l'année 2008.
Toi, tu as passé 2 ans à Madagascar, dans quel cadre ?
Alors justement, c'est du volontariat, mais c'était dans le cadre du ministère des Affaires étrangères. J'ai dirigé une alliance française à Antsirabe, qui est un petit peu au sud de Tananarive. Et donc pendant 2 ans, c'était un contrat de 2 ans, je le savais au départ. Et ça a été une expérience absolument formidable, parce que vivre 2 ans dans un pays et y travailler, qui plus est, avec des gens, enfin, exclusivement malgaches, en l'occurrence pour mon expérience, ça vous permet de comprendre davantage la culture, plus d'ailleurs qu'une expérience de tour du monde, parce que finalement, ma vraie conception du voyage, c'est de rester, m'implanter longtemps, au minimum 6 mois dans un pays pour le comprendre. Dans l'expérience d'affranchi du temps, j'ai pas la prétention d'avoir tout compris ce qui se passait. En restant 1 mois dans un pays, on peut pas avoir cette prétention-là sur des pays aussi complexes que la Birmanie, par exemple. Non, il y a tellement de choses à voir, de saveurs différentes, d'ethnies différentes, de langages différents, qu'on peut pas tout comprendre comme ça. L'Inde, on dit souvent que l'Inde, par exemple, mérite 5, 6, 7, 8 voyages avant de vraiment commencer à comprendre un petit peu comment ça fonctionne.
J'en passe de moi quelqu'un qui a ce besoin de rencontre, d'échange, de voyage. Pourquoi ça n'est comment cette envie de partir à l'étranger, de partir à la rencontre de l'autre, ou peut-être finalement partir à la rencontre de soi ?
Ah bien sûr, ouais, c'est une quête de soi. D'ailleurs, je me permets d'ouvrir le livre et j'attaque avec cette phrase de Rousseau qui dit « Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher. » Donc effectivement, il y a une vraie quête de soi. Et il y a une rubrique, plutôt qu'une rubrique, un chapitre. Je commence avec ce chapitre-là qui s'appelle « Un cheminement » et je pose la question. Partons faire un tour du monde à 23 ans comme cela, sur un claquement de doigts, surtout après avoir fait des études d'économie? La réponse, bien évidemment, c'est non. Il y a tout un tas de paramètres. Il y a effectivement la quête de sens, déjà. Il y a une recherche, en fait, d'identité. Qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je veux, quelle va être ma réaction, en fait, loin du confort rassurant français, finalement. Et voilà, se confronter justement à la différence, parce que les gens pensent différemment ailleurs, mangent différemment. Et c'est surtout ça, enfin, quelle va être ma réaction. Et cette expérience-là, justement, m'a permis de savoir déjà qui j'étais, enfin un peu plus, parce qu'on se cherche de toute façon constamment, savoir, de connaître la condition d'étranger aussi, savoir qu'est-ce que c'est d'être étranger. Donc on en revient bien plus compréhensif vis-à-vis des étrangers ici en France. Il faut partir très humble et on revient aussi très humble aussi, je pense. Ouais. C'est une clé du voyage, c'est arriver, se faire discret, partir avec le sourire. Il faut partir avec deux choses, je pense, avec un couteau suisse, c'est toujours utile, et le sourire, c'est fondamental.
Ton projet d'écriture est né à quel moment, avant ton départ ou est-ce que...
Alors j'ai pris pas mal de notes, en fait. J'ai tenu un carnet de route, d'ailleurs on retrouve des extraits de ce carnet de route, en fait, un petit peu partout dans le livre. Et c'est ces prises de notes-là qui m'ont permis d'écrire, en fait, de me pencher sur ce projet d'écriture au retour. J'ai mis un an à écrire le livre dans sa totalité. J'ai mis autant de temps à écrire le livre qu'à faire le tour du monde en soi, et j'ai mis aussi autant de temps à trouver un éditeur, parce que c'est pas simple, c'est un exercice difficile. Je suis parti, j'avais pas spécialement l'idée d'écrire, c'était pas un objectif. J'écrivais d'abord pour moi, et finalement au fur et à mesure je trouvais que ça, il y avait de la tenue. Je l'ai fait relire un petit peu à quelques personnes qui m'ont dit bah pourquoi pas. Et puis après, je l'ai envoyé dans quelques boîtes d'édition. Et puis j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Et j'en suis très, très content, parce que ça me permet, encore une fois, de partager, d'échanger avec les gens, de participer à ces festivals-là, de voyageurs et de rencontrer d'autres voyageurs. Et ce tour du monde-là a conditionné tout le reste de ma vie, finalement. Puisque suite à ce livre, j'ai un projet de documentaire de voyage. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu la frustration de ne pas pouvoir voir les films courts qui sont en train d'être diffusés à côté. Mais voilà, donc il y a une suite logique, finalement. Voilà. Ouais. Et puis un peu de photos aussi, comme vous pouvez voir derrière. J'essaye aussi de faire un petit peu de photos.
Ton tour du monde, tu l'as préparé comment ?
Alors, je ne l'ai pas énormément préparé, finalement. J'explique au début du bouquin que j'ai pris un planisphère, je l'ai étalé. Et puis, je l'ai regardé un petit peu comme un astronaute pourrait voir un petit peu la planète Terre de tout là-haut, finalement. Donc, le choix des destinations, c'est beaucoup de coups de cœur. Et puis, un simple nom, des fois, par exemple, la Birmanie, l'Argentine, c'est des noms qui me faisaient rêver, en fait, tout simplement. Donc, il y a eu une seule explication, enfin, quelque chose qui se tient, c'est le départ en Afrique. J'ai commencé en Afrique parce que l'Afrique, pour moi, c'était un véritable test. 2 mois en Afrique, après ces 2 mois, je savais que je pouvais concrétiser l'objectif que je m'étais fixé, à savoir faire le tour du monde. Mais sinon, non, des simples affinités ou une intuition. J'avais envie d'aller en Argentine, en Bolivie, au Pérou, pour voir le Machu Picchu, par exemple, mais bien d'autres choses. Et la Birmanie, pour le côté un petit peu pour la dictature, pour le côté fermé, pour Aung San Suu Kyi, pour ce côté un petit peu interdit qui me fascinait. Et effectivement, c'est fascinant, c'est un pays que je recommande à tout le monde. Ouais.
Tu racontes aussi comment tu te loges le soir, où tu manges, comment tu t'y prends, est-ce que tu passes par des réseaux comme le Couchsurfing, ou c'était quoi ta démarche à toi ?
Alors, une fois, j'ai fait du Couchsurfing. D'ailleurs, j'ai fait une rencontre absolument formidable au Pérou. Raquel, donc j'en parle dans ce bouquin. Sinon, non, c'est vraiment... Je connaissais vraiment personne, et c'est vraiment les rencontres. De toute façon, les gens me posent souvent la question, mais c'est pas dur de voyager et tout. Mais non, pas du tout, en fait. La plupart du temps, vous êtes au Burkina Faso, pour ne citer que ce pays-là, mais vous avez des gens tout le temps autour de vous qui vous invitent à manger, qui vous invitent à dormir chez eux, qui vous indiquent une direction. Donc c'est pas dur de partir, finalement. Il suffit de prendre le billet d'avion, de monter dans l'avion et puis d'arriver, quoi. Après, tout le monde n'a pas envie de le faire, et ça, je le conçois et je le respecte. Mais moi, en tout cas, c'était cette envie-là de me confronter justement à l'inconnu et d'aller vers l'autre aussi. Le fait de partir seul, ça a été une volonté. Et si c'était à refaire, je le referais. Parce que quand on est seul, on est davantage poreux vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Et bien plus que quand on est à deux. Et puis les gens vous ouvrent plus facilement en fait, leurs portes. Et nous, on va plus facilement vers les gens.
Des belles rencontres quand même. Tu parlais de Rachel avant.
Ouais, Raquel, ouais, exceptionnelle. Une fille péruvienne fantastique qui vivait avec sa maman dans la banlieue très pauvre de Lima. Enfin, elles m'ont accueilli vraiment sans me connaître, comme elle disait Luz, parce que Luz, elle s'appelait Luz, la maman. Elle me disait, tu as été le fils que je n'ai jamais eu en fait finalement. Donc c'est fort quand même. Je suis resté une seule semaine chez elle en fait. Et aucune contrepartie, pas d'argent et tout. Je leur ai juste fait un bon repas français avant de partir. C'est tout. Mais c'est ça qui est fort. Ou Mar Diallo au Mali qui m'a accueilli chez lui, qui était même très gêné de m'accueillir parce qu'il n'y avait pas de toilette. Et pour le blanc que j'étais, il était très gêné à me, juste sur le fait de me poser la question, savoir si je voulais venir chez lui, quoi. Et je lui dis, mais Oumar, j'ai rêvé de ça pendant un an, justement. Ça fait des mois que je rêve de ça, d'aller chez les gens et tout. Donc, bien sûr, je suis content de venir chez toi. Il y a eu plein d'autres. J'ai rencontré des gens formidables, mais des enfants comme des vieilles personnes. Là, je te montre une photo de Maria en Roumanie. Maria, une ancienne prof de français qui a à peu près 65 ans, je ne sais pas vraiment, et qui m'a fasciné avec sa chevelure rousse, avec son pull avec le cœur au milieu, sa vieille maison un peu rafistolée. Elle avait un châssis à moi. Elle avait une bibliothèque remplie de livres français où elle m'a parlé de la littérature française comme personne. Et on a parlé, elle m'a invité à manger, on a parlé de tout et de rien. Et puis pendant plusieurs jours, et puis on s'est quitté, on ne s'est jamais revu. Et voilà, c'est fascinant de savoir que... Voilà, il faut que je lui envoie un bouquin. D'ailleurs, j'en ai envoyé un à Raquel, un à Oumar, mais pas à Maria. Il faudrait que je lui envoie justement parce qu'elle, l'adoratrice des mots et de la langue française, parce qu'on trouve beaucoup de gens un petit peu partout dans le monde qui sont amoureux de cette langue, du pays aussi, mais de cette culture et de cet héritage culturel un petit peu. Ouais, c'est assez fascinant, ouais.
Tu voyageais par voie terrestre ?
Ouais, par voie terrestre, ouais. J'ai pris l'avion en fait de continent à continent, mais au sein même des continents. J'ai eu beaucoup de bus forcément, mais aussi beaucoup de stops, beaucoup de marches, et la location de la minivan par exemple en Nouvelle-Zélande pour faire le tour de l'île du Nord. Et donc trip très solitaire parce qu'en van on est tout seul, mais j'ai joui de cette liberté de pouvoir m'arrêter quand je voulais, de pouvoir redémarrer et repartir quand je le voulais aussi. Donc ouais, c'est ça, j'ai joui d'une grande liberté. Alors à se frotter à la liberté, on s'en brûle un peu les ailes aussi, parce que revenir après, parce qu'on se refait un peu au système, de toute façon on n'a pas vraiment le choix, je pense. Un décalage secret, c'est certain. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est beaucoup, on est nombreux à repartir, c'est évident.
Ça fait un peu Into the Wild là, quand je te vois là sur la photo.
Ouais. Into the Wild, j'ai pris une claque avec Into the Wild parce que je suis rentré. Le bouquin, je l'écrivais, il est sorti. Et Into the Wild est sorti. Et effectivement, grosse claque, parce que bon, déjà, c'est un chef-d'œuvre. Sean Penn a réalisé quelque chose de formidable. La musique d'Eddie Vedder, qui est le chanteur de Pearl Jam, que j'affectionne tout particulièrement. Un film formidable, et effectivement, donc c'est le même processus. Quelqu'un qui a fait des études d'économie, à qui on... Le chemin était tracé, quoi. La grande entreprise, beaucoup de fric, matérialiste, etc. La grosse bagnole. Et puis non, finalement, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, c'est pas aussi extrême que j'ai oublié son nom d'ailleurs, que cet extrémiste de la vie, comme il se définissait.
Alexandre, ouais. Supertramp.
Voilà, Supertramp, c'était son pseudo. Parce que lui, il s'est nourri avec des plantes. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a tué, hein, d'ailleurs. Et non, c'était pas aussi extrême. Ça a pu l'être de temps en temps, parce qu'il m'est arrivé souvent de dormir dans la rue et de vivre avec cette insouciance-là, et de me poser des fois à regarder des paysages, à écouter le vent. Effectivement, ça, je l'ai fait. Et donc, je me suis forcément reconnu un petit peu dans ce film-là. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché, beaucoup ému. Ouais. Sad, I'll keep as a wisdom in my voyage, c'est partir à la rencontre de l'autre, pour comprendre l'autre, pour se comprendre soi. Parce qu'il y a tellement de choses à voir que ça serait tellement dommage de... On a un beau pays, on habite en France, on est français, c'est une chance, c'est un beau pays, mais il y a tellement de richesses un petit peu partout. C'est l'enrichissement que ça apporte aussi, c'est s'enrichir. Voyager, c'est s'enrichir, c'est découvrir, c'est... Et c'est aussi dire ce que c'est aussi la France à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de clichés. Moi, je lutte contre les clichés. Aussi bien les clichés des gens, des étrangers sur la France que les clichés ici en France sur les étrangers. Quand je suis revenu de Roumanie, forcément, les amis français m'ont dit « alors, la Roumanie, etc. » avec tous les clichés, je ne vais pas les reciter sur la Roumanie. Mais non, il faut je me bats contre les clichés, justement. Et donc voyager, c'est aussi ça, c'est rompre ces clichés-là et se faire sa propre idée d'une culture et d'un pays, ouais, voilà.
Je vais revenir à Alexandre Supertramp, donc dans Into the Wild. Toi, t'as voyagé seul aussi, hein, sur les routes. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ce film, c'est « Happiness is real if shared », le bonheur est réel si partagé, t'en penses quoi ?
Absolument partagé, ouais. Mais elle m'a fait pas mal cogiter cette phrase, parce qu'effectivement, le fait de partir seul, ça a été un vrai choix. Et si c'était à refaire, je le referais. De la même façon, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, partir seul, bah, on est davantage peureux vis-à-vis de tout ce qui nous entoure et on entre plus facilement dans la vie des gens. Cependant, c'est partir seul, c'est quitter une situation, quitter des gens aussi, et ça peut faire souffrir aussi des gens. Et donc pour ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et aussi, et j'en reviens à ce que la citation de Supertramp, c'est que on a cette frustration là. En voyage, quand on est devant un paysage absolument époustouflant, quand on a fait une rencontre merveilleuse, de ne pas pouvoir le partager le soir avec quelqu'un. C'est pour ça d'ailleurs qu'on écrit et qu'il y a beaucoup justement de voyageurs qui écrivent pour eux et qui le gardent pour eux ou qui ne l'éditent pas spécialement comme j'ai pu le faire. Et j'ai pu ressentir ça, ouais, à certains moments, d'avoir cette frustration-là de ne pas pouvoir échanger avec quelqu'un. Donc j'ai échangé avec la feuille de papier le soir, donc ça valait ce que ça valait, mais bon, c'était au moins, ça me permettait de coucher sur le papier des sentiments, et puis des ressentis emmagasinés tout au long d'une journée, ouais, c'est important, c'est important.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
On s'est pas présenté, tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Sullivan Bentier. Et toi ?
Alex.
Alex.
Enchanté Sullivan, donc parle-moi maintenant un peu de toi, qui es-tu ?
Je suis originaire de la Loire, de Rouen exactement, issu d'une famille modeste. Mes grands-parents travaillaient dans les bonneteries, parce que Rouen était une grande ville de textile il y a bien, bien longtemps. Ça reste une ville, une très très belle ville, mais qui a souffert des délocalisations, donc je viens de là. D'un milieu modeste et c'est d'ailleurs ce milieu-là dans lequel j'ai grandi qui fait que j'ai su m'affranchir très rapidement. On a apprivoisé un peu la culture de la débrouille un peu chez moi et ce qui fait que j'ai pu être autonome rapidement et peut-être partir à 23 ans sur les routes un petit peu comme ça. Dans une interview, j'avais dit il y a la Loire aussi qui passe à Rouen et je me souviens quand j'étais petit, j'allais pêcher là-bas et à l'époque où il y avait encore du poisson. Et je voyais justement le fleuve défiler. Et puis j'avais fait le rêve à l'époque de monter sur une barque et d'aller voir ce qui se passait au bout de ce fleuve, par exemple. Donc ça se veut un peu très poétique, mais parce qu'à l'âge de 10 ans, on pense pas spécialement à ça. Mais finalement, avec le recul, c'était un petit peu ça. Et donc, à la suite d'études un peu économiques, finalement, je me suis dit que c'était pas ça ma vie. Enfin, j'étais pas fait pour ça. Le décalage, de toute façon, mon entourage le sentait bien. Donc avec ce décalage, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te mets des œillères et tu vas tout droit là où on te dit d'aller, finalement, depuis tout petit ? Et puis finalement, non, j'ai décidé de créer une association, de créer un projet pédagogique, de trouver un petit peu de financement, parce qu'avec avec mes deniers, j'aurais pu monter à Paris, je pense, c'est tout. Et donc d'allier l'agréable, c'est-à-dire la quête de sens dont on vient de parler, ce tour du monde, et aussi Se rendre utile en fait via ce projet. Je t'en ai pas parlé, mais en fait, ce projet éducatif m'a fait travailler avec 500 enfants en France, dans la Loire et la Saône-et-Loire, et aussi dans tous les pays que j'ai fait autour du monde. C'est-à-dire que je suis parti avec ma petite pochette d'atelier et j'ai travaillé dans des écoles dans tous les pays et des orphelinats, mis à part la Birmanie où là, ça m'a été très très compliqué de rentrer dans une école. Et si j'avais forcé le barrage, et j'aurais plus mis en danger l'enseignant, l'école, plutôt que moi. Moi, j'aurais été reconduit à la frontière, sauf que l'enseignant ou l'enseignante aurait été dans les geôles birmanes pendant peut-être plusieurs années. Donc, je n'ai pas cherché à travailler plus que ça en Birmanie.
Donc, tu avais un fil conducteur dans ton voyage. Tu avais ce projet pédagogique derrière.
Ouais. Je voulais partir, mais avec ce sentiment d'être utile. Voilà. Effectivement. Donc, et puis, en plus, ça m'a permis d'aller au cœur, en fait, justement, de chaque pays, parce que j'allais dans des orphelinats perdus au milieu de nulle part. J'ai pour souvenir le Cambodge, par exemple, où je suis parti avec une moto à 2 heures de la capitale. Je me suis retrouvé au milieu de nulle part avec une centaine d'enfants cambodgiens qui parlaient pas forcément un mot d'anglais, d'ailleurs, et ce qui est normal. Donc, il a fallu que j'apprenne un petit peu le Khmer rapidement, enfin, les bases pour qu'on puisse communiquer. Et ça a été un fil conducteur. Ouais. C'était un objectif dans chaque pays, trouver une école, un orphelinat, ou plusieurs d'ailleurs, où je pouvais me rendre utile et apporter un petit peu le peu de savoir que j'avais construit via ce projet pédagogique. Ouais. Et j'avais aussi réuni des fonds pour acheter dans chaque école ou orphelinat quelque chose, en fait, adapté, parce qu'il y a souvent des projets qui sont inadaptés. Là, c'était une petite goutte d'eau, mais c'était quelque chose d'adapté. Ça, j'ai pu acheter 6 bicyclettes, par exemple, au Cambodge dans un orphelinat. J'ai pu acheter des cahiers, des stylos au Burkina parce qu'ils n'en avaient pas. Alors que, par exemple, Bolivie, ils ne manquaient pas de cahiers, de stylos. Ils habitaient dans une super ville, Sucre, dans l'orphelinat où j'étais. Ils n'avaient jamais été visiter le marché de leur ville, en fait, où on vend tout un tas de choses et tout. On a loué un bus. Les gamins sont montés dans le bus, sont allés visiter leur marché. On avait aussi prévu un petit budget pour leur offrir un petit de quoi boire et manger, enfin un petit goûter, tu vois. Et ils étaient ravis, les gamins. Donc, c'est pas grand-chose. Encore une fois, ça va pas changer. Enfin, j'ai pas la prétention de vouloir changer le monde, loin de là.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Affranchi du temps, Sullivan Benetier, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce livre? C'est vraiment ton expérience de voyage, les rencontres que tu as faites, ou est-ce que tu apportes une réflexion plus profonde? Tu parles de ton projet associatif, ou présente-le-moi.
Alors, c'est surtout de la littérature de voyage. Le projet associatif, effectivement, je dis pourquoi je suis parti, mais je ne m'étale pas plus non plus là-dessus, parce que c'était assez rébarbatif au début. J'écrivais sur ce projet, et puis finalement, les ateliers ont été les mêmes dans tous les pays. Donc finalement, je n'allais pas en parler à chaque fois. Tu vois. Donc c'était une volonté. C'est vraiment axé sur le voyage. Et affranchi du temps. Alors pourquoi affranchi du temps? Justement, c'est mettre le temps un petit peu de côté pour aller lentement. Et puis le côté affranchi, et puis on le voit sur la couverture, c'est s'affranchir aussi d'une société qui n'a pas su me retenir finalement, la société un petit peu occidentale, pour cette vie de bohème. Et ça, c'est la deuxième photo qui est en dessous. Ce qu'on trouve à l'intérieur du livre, c'est un florilège de rencontres, c'est différents rythmes aussi. C'est des extraits de carnets de route personnels, c'est beaucoup de portraits, c'est beaucoup de descriptions aussi, c'est quelques données forcément un peu historiques, géographiques, pour donner un petit peu de teneur au bouquin. Et puis je les saupourais aussi beaucoup de musique. Ça vous paraît étonnant, mais parce que la musique, ça fait partie intégrante de ma vie. Je l'ai écouté en musique, je l'ai écrit en musique plutôt, ce bouquin. Et forcément, il y a plein de références. Donc ça va de Rocky à Traoré à Bachung, en passant par Gainsbourg. Il y a tout un tas de... D'ailleurs, je mets ces auteurs, enfin ces musiciens, ces compositeurs dans les remerciements. Je les remercie de m'avoir épaulé et de m'avoir soutenu pour l'écriture du bouquin. Parce que vraiment, ça a été une vraie source d'inspiration, quoi.
Par rapport à ton voyage, donc ton tour du monde sur une année, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que tu retiens?
Ce que j'en retiens, c'est un peu la morale déjà du bouquin. Et alors tout le monde s'attend à ce qu'à la fin du livre on trouve oui, il faut partir, faire le tour du monde comme ça, la vérité se trouve ailleurs. Ben non, justement, le paradis, est-ce qu'il existe? J'en sais rien, je crois pas, j'ai pas trouvé le paradis, sinon j'y serais ça, très probablement. L'enfer, il est à peu près cartographiable, pardon, dans des pays en guerre, etc. Mais la morale, c'est que le bonheur, l'affranchissement, il est ici aujourd'hui à Saint-Étienne, il est un petit peu partout. Le bonheur, il dépend pas d'un changement de latitude finalement, il est sur le pas de notre porte. On peut être dans l'endroit le plus paradisiaque du monde, mais si on n'a pas les gens qu'on aime ou qu'on n'est pas bien dans sa tête à ce moment-là, finalement la belle plage paradisiaque finalement ne vaut plus rien finalement. Et on peut être au fin fond de la Saône-et-Loire ou de l'Allier. J'ai beaucoup de respect pour les gens de la Saône-et-Loire et de l'Allier, mais ou de la Loire, parce que je suis de la Loire, on va dire, et faire un beau voyage. On peut déjà faire un voyage déjà dans sa tête, littéraire, en lisant un bouquin. Et c'est ça, c'est que pas besoin de faire 10 000 km pour s'évader, ouais, je pense. Moi, j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien et qui me disaient, moi, je suis heureux, j'ai pas besoin de... Enfin, ils m'ont pas dit d'écran plasma et tout, parce qu'ils savaient même pas que ça existait, mais... Nous, le bonheur, c'est quoi? C'est aujourd'hui, les gens se disent heureux quand ils possèdent. C'est la possession chez nous. Je ne vais pas rentrer dans tous les clichés de l'Occident, du matérialisme et tout, mais moi, je suis heureux, en tout cas, dans la simplicité. Je reviens de Madagascar, j'étais heureux simplement dans la simplicité là-bas, parce que le matin, je sortais dans mon petit chemin et qu'il y avait déjà des tireurs de pouce-pouce un peu partout qui me saluaient, qui me connaissaient. Je tournais pour aller vers le boulot, je me souviens, je visualise un petit peu, c'est pour ça que je dis que je tourne, et il y avait des vendeurs à la sauvette partout, il y avait des charrettes à zébu. La vie est dans la rue dans ces pays-là. Et les gens communiquent, c'est-à-dire que je prenais des moufgaches, les malgaches se reconnaîtront là-dedans, avec le petit café le matin, et les gens communiquent, me parlaient, bon, d'autant plus que j'étais un Vaza, un étranger là-bas, et j'en demandais pas plus, en fait, tout simplement. C'est ce manque de communication et ce manque de lien que tout le monde connaît maintenant en Occident. Tout le monde est conscient de ce manque de lien. Mais comment faire, finalement? Parce que moi qui habite à Lyon maintenant, dans le métro, je vais être un petit peu vulgaire, mais je tire la tronche comme tout le monde, finalement, parce que je me verrais mal parler à quelqu'un, finalement, parce que ça choquerait de toute façon déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire, finalement?
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardailleurs.org.